Bon, eh bien, nous reprenons donc notre journée de réflexion sur Archives et Traces, et j'avoue que je suis particulièrement heureuse d'accueillir Magali Claveau, donc, qui a la caractéristique, à part d'être une très très grande amie, d'être archiviste. Magali a travaillé pendant 19 ans, de 2000 à mai 2009, 2019, pardon, aux archives départementales de la Martinique. C'est là où j'ai eu la chance de la rencontrer. Elle m'a guidée, elle m'a aidée dans mes recherches. Elle a été responsable au sein de ces archives départementales de l'action culturelle, de la bibliothèque, du dépôt légal, et elle a participé au classement des fonds modernes. Elle a organisé plusieurs projets culturels, plusieurs expositions, Histoire de l'alimentation en Martinique, Aimé Césaire, Poésie et politique, La Martinique d'Arlette Laménardie, des photographies, 1960-1970. Elle a aussi animé des ateliers d'indexation collaborative, associant des bénévoles, amateur de généalogie et d'histoire familiale, et elle est actuellement directrice adjointe des archives municipales de Cannes, un tout autre milieu, où elle conduit et met en œuvre la politique d'archivage de la ville. Et elle nous apporte aujourd'hui son témoignage sur son expérience sensible de l'archive, où l'émotion serpente entre les documents régulés par l'indexation. Alors, c'est à toi, Magali.
Eh bien, écoutez, je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci Christine de cette invitation qui donne l'occasion d'entendre la voix des archivistes. Donc, je suis enthousiaste de tout ce que j'ai déjà entendu ce matin, qui va me permettre aussi un peu de réorganiser mon propos. Donc, moi, ce que je veux partager avec vous, c'est vous parler de l'archive telle qu'elle est envisagée aujourd'hui du point de vue du législateur, de celui qui a posé en fait le cadre dans lequel l'action de l'archiviste s'inscrit, aussi du point de vue de la pratique archivistique française, donc vraiment là du côté purement professionnel. L'archivistique étant aujourd'hui considérée déjà depuis pas mal de temps comme étant une science auxiliaire de l'histoire, donc avec un appareil théorique, hein, une doctrine et aussi des outils pour pouvoir gérer et conserver les archives. Donc les outils, je vous le montre parce qu'il est assez, vous ne l'avez peut-être jamais vu, mais ce qui est la Bible de l'archiviste, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Vous voyez, c'est quand même assez bien épais. Il y en a deux comme ça et il y a plusieurs encore autres outils qu'on utilise tous les jours dans le cadre de nos activités. Et puis évidemment, à travers tout ça, bah, vous relatez des moments de mon expérience professionnelle. Donc effectivement, 18 ans aux archives départementales de Martinique et depuis un peu plus d'un an ici aux archives municipales de Cannes. Donc pour démarrer, j'aurais voulu qu'on pose ensemble un peu le cadre de ce qu'est l'archive du point de vue réglementaire, législatif. Une définition qui, vous allez voir, va nous emmener assez loin, au-delà peut-être de ce que vous avez pu vous déjà imaginer ou expérimenter. Donc je vais vous la lire, cette définition. Donc elle est posée en 1979. C'est vraiment la grande loi sur les archives est datée donc du 3 janvier 1979 et c'est à cette occasion qu'on fixe, enfin que le législateur fixe un peu une définition de l'archive qui sera finalement pas trop touchée. Juste en 2008, il y a eu une rénovation, un peu une réévaluation du texte. Vous verrez, je vous le dirai aussi, mais c'est toujours un texte qu'on utilise. Sur lequel on s'appuie dans notre pratique professionnelle. Donc, c'est l'article. Alors, aujourd'hui, évidemment, c'est codifié dans le Code du patrimoine. Donc, je vais vous citer l'article du Code du patrimoine. Hein, c'est le L211-1 qui définit les archives. Donc, effectivement, on ne parle pas de l'archive au singulier, mais comme disait tout à l'heure Philippe Artière, on parle bien des archives, donc comme étant un matériau. Donc, il définit ce texte, les archives publiques et privées, comme l'ensemble des documents, y compris les données, on y reviendra après, je vous dirai pourquoi, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Donc là, si j'étais en Martinique dans mes actions de médiation, je vous poserais des questions, mais évidemment l'interactivité elle est rendue difficile par les moyens dont on dispose aujourd'hui, mais je vous demanderais qu'est-ce que ça vous évoque et surtout... est-ce que ça correspond à l'idée que vous en faisiez un peu au départ? Bon, alors moi, je vais répondre à votre place. Je vais vous dire que l'archive, c'est finalement une infinité de choses. C'est non seulement le manuscrit qu'on trouve endormi dans les dépôts d'archives, mais c'est aussi le document administratif, alors pour la partie archives publiques, hein, qu'on va trouver, dont on a besoin quand on travaille dans un service administratif, qu'on utilise tous les jours et qu'on produit tous les jours dans le cadre de nos activités. Donc la notion de temporalité, elle est complètement effacée. L'archive, c'est pas simplement quelque chose d'ancien, de vieux, mais c'est aussi quelque chose de récent, d'immédiat. Et c'est aussi la traduction de nos actions, de celles que l'on conduit tous les jours dans notre cadre professionnel, mais aussi personnel, qu'il soit public ou privé. Donc, depuis 1979 et jusqu'en 2008, à la refonte de cette définition, l'archive est formée d'un contenu et d'un contenant, c'est-à-dire l'information et son support, donc la matérialité de cette information. Et en 2008, pour tenir compte de l'évolution de notre société vers le numérique, on ajoute la notion de données, c'est-à-dire que l'archive, c'est un document, mais c'est aussi aujourd'hui une donnée, c'est-à-dire la représentation d'une information dans un programme, ça c'est vraiment le langage informatique, hein. Cette définition est ainsi libérée de toute référence à la matérialité des archives, afin de tenir compte justement de la dématérialisation des supports à l'ère du numérique. Voilà. À cela, une fois qu'on a posé cette définition, les théoriciens en quelque sorte de l'archive, eux définissent aussi l'archive comme étant quelque chose qui vont parler en fait du cycle de vie de l'archive, de sa naissance, donc au moment de sa production, jusqu'à sa destruction, qui est un acte délibéré, ou pas toujours non plus, on pourra revenir dessus, ça déculpabilisera un peu l'archiviste, vous verrez, ou à sa conservation définitive. Et qu'est-ce qu'il va dire, le théoricien? Il dit que, donc, il y a trois âges dans ce cycle de vie de l'archive. Il parle d'archives courantes. Alors ça, c'est tout le jargon professionnel, et vous allez voir, c'est assez... ça rend la chose encore un peu plus complexe et du coup un peu plus croustillante. Donc les archives courantes, ce sont les dossiers actifs, et vous pouvez tout à fait faire le parallèle avec vous aussi, votre propre production documentaire, hein, les dossiers actifs qui servent à la gestion quotidienne des affaires. Utilisés fréquemment, ils sont conservés dans les bureaux, tout simplement. Donc, ces archives courantes, voilà, elles ont un lieu, donc on les stocke autour de soi. Donc, on est dans un rapport assez de proximité avec l'archive. Deuxième âge. Les archives, on parle d'archives intermédiaires. Ce sont là les dossiers qui ne sont plus d'usage courant, mais qui sont néanmoins conservés pour des nécessités de gestion ou des impératifs juridiques. Donc là, ce sont des documents dont on n'a plus forcément besoin, dont on n'a plus besoin dans sa gestion courante, dans notre activité courante, mais sur lesquels va pouvoir peser un risque. Alors ça, on parle du risque, hein, d'un risque de contentieux, voilà. Et c'est une preuve qu'il nous faut conserver. Alors, c'est le cas typique des factures. Alors, là, on est vraiment dans le type classique, donc d'une facture qu'on n'a pas forcément, qui une fois payée, on n'a pas forcément besoin de la conserver, mais si un jour il y a un problème, voilà, il nous faut pouvoir y recourir en cas de contentieux. Et elle, comment elle est stockée, cette archive? Elle est conservée généralement à proximité du bureau. Enfin, vous voyez bien un peu chez vous comment ça se passe. Donc, dans un service administratif, c'est pareil. On la sort d'un emplacement, d'une proximité immédiate. Et dans le domaine des archives publiques et dans les services administratifs, on va la ranger dans un espace qu'on appelle un local de pré-archivage. Vous voyez ? Et le troisième âge de l'archive, c'est les archives qu'on dit historiques. Ce sont les dossiers dont la valeur administrative est complètement éteinte, si je peux dire. Il n'y a plus de risque qui pèse et il n'y a plus la nécessité d'exposer, de présenter ces documents qui sont des preuves. Mais ces documents vont présenter un intérêt historique. Un jugement, un acte d'état civil, une délibération sont des archives historiques. Et ce sont ces documents-là que l'on va conserver dans des dépôts d'archives que vous connaissez, que vous fréquentez, et qui seront potentiellement utilisés, consultés, par les chercheurs, hein, qu'ils soient amateurs, professionnels. Donc finalement, l'archive ne meurt, si on peut dire, qu'une fois qu'elle est détruite physiquement. Sa valeur historique lui assure l'éternité, en quelque sorte, dans le dépôt où elle est conservée définitivement. Est-ce que ça va ? Vous me suivez ? L'archive, elle a une fonction. Donc, vous voyez, on va évoquer un certain nombre de notions qui sont un peu fondamentales pour le professionnel de l'archive. L'archive, elle a une fonction. Et le législateur aussi, toujours en 79, j'aurais d'ailleurs pu continuer sur la définition avec cette notion aussi de fonction, elle répond à la triple nécessité de la conservation. C'est les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales. Donc, c'est là où on parle de preuve, hein, c'est de pouvoir prouver un droit. Donc, ça, c'est la démarche que l'archiviste, enfin, qu'il faut faire pour le citoyen. Donc, on doit assurer au citoyen la possibilité de retrouver des éléments de preuve dont il aurait besoin dans le cadre soit de démarches administratives. Et elle a une autre fonction, donc c'est la besoin de gestion, c'est plutôt pour l'administration, hein, les bons rouages, le bon fonctionnement de l'administration, la justification des droits des citoyens et la documentation historique de la recherche. L'archive, elle a donc une utilité, donc c'est des mots qui sont importants. Elle a une utilité donc administrative, juridique et historique. Et à cette utilité, on lie une valeur de l'archive, donc c'est une valeur d'information, de preuve et de témoignage. C'est un petit peu déjà ce que j'ai dit au préalable. Donc voilà un petit peu le cadre dans lequel notre action s'opère. Donc une fois qu'on a dit tout ça, l'archiviste, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, lui, il est le gardien et le gestionnaire de cette production documentaire. Et il a plusieurs missions. celle de collecter, de trier, de classer, de conserver, de communiquer et de valoriser les archives. Vous voyez, c'est pas rien. Pour cela, il s'appuie sur un dispositif réglementaire et normatif qui est défini par ce qu'on appelle aujourd'hui, parce que c'est ce qui est dénommé aujourd'hui, le service interministériel des archives de France, donc par l'État, qui va fixer des règles et des normes pour permettre à l'archiviste dans son dépôt de gérer et de conserver cette documentation. Okay, qui n'est pas simplement historique. Hein. Pour bien comprendre ça, c'est de la documentation administrative, juridique, historique. Donc, si vous voulez, en 79, qu'est-ce qui s'est passé? Le législateur, on est à la période du développement de l'ère informatique et on s'est retrouvé à la tête de masse d'archives, voilà, d'une production documentaire qui est devenue exponentielle et qui continue encore aujourd'hui. Et il a fallu surtout prendre en compte cette production d'archives courantes et intermédiaires dont il fallait s'occuper, c'est-à-dire déterminer ce qu'on allait en faire à court, moyen et long terme. Donc aujourd'hui, comme je vous le dis, on reste toujours confronté à une masse de papier, donc on l'archiviste, hein, et nous devons gérer parallèlement, avec le développement du numérique, des flux de données dématérialisés dans le cadre de versements, donc c'est l'opération matérielle et intellectuelle du transfert de responsabilité de l'archive administrative, qui est produite et conservée un premier temps auprès de son producteur, hein, de celui qui l'a produite. Donc, c'est un transfert du service producteur vers le service d'archives qui va la gérer à son âge intermédiaire parfois, mais surtout à son âge historique. Et ça se mesure, tout ça, toute cette masse, en mètres linéaires, c'est l'unité de mesure, parfois même en kilomètres linéaires, donc des dépôts, par exemple aux archives départementales de Martinique, ont conservé à peu près 11 kilomètres linéaires de documents. Ici à Cannes, on est plus près des 4,5. Donc on parle de mètres linéaires, on parle de volume de carton d'archives, et pour les données numériques, on va parler de mégas et de téraoctets. Donc là, c'est complètement dingue. On est dans des volumes et dans des mesures voilà, qui sont parfois extrêmement difficiles, enfin complexes, hein, à prendre en charge. Donc si vous voulez, avec ce développement du numérique, on est passé d'une génération, moi je dis d'archivistes paléographes, hein, que vous avez peut-être connus, qui dans les dépôts s'attelaient minutieusement au fameux dépouillement. On n'en a pas à reparler de ces affaires de dépouillement là tout à l'heure. Donc, avoir un relevé précis pour produire des inventaires détaillés, analytiques, extrêmement détaillés de ce qu'on trouvait dans les dépôts, à un e-archiviste, i-e-archiviste, ou un record manager, comme on dit dans le monde anglo-saxon, qui, en fait, a la charge de gérer des archives dès leur production et ce, juste tout au long de leur cycle de vie. Donc, s'il est préposé à la garde et à la conservation des archives face à une telle masse, l'archiviste doit opérer des choix. Il doit sélectionner, tirer le bon grain de l'ivraie en quelque sorte, il doit sélectionner ce qui doit être conservé à moyen et à long terme, car évidemment, malheureusement, tout ne peut pas être conservé. Donc ça, c'est un présupposé de base dans la profession. Et à partir des règles et des recommandations qui donc lui sont proposées, il va lui aussi construire des outils de gestion. On va parler de tableau de gestion. Donc on est dans le jargon un peu là, hein. Ça jargonne un peu. On parle de tableau de gestion qui, pour chaque type de document, va fixer une durée d'utilité administrative et à l'expiration de cette durée, un sort final au document. Donc, c'est-à-dire en gros, par exemple, une facture, je reviens toujours avec mon exemple de facture, on va considérer que ça a une durée d'utilité administrative de 10 ans et à l'expiration de ces 10 ans, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et ça, c'est la question centrale. Alors, il est déculpabilisé tout seul dans son dépôt parce que justement, il s'appuie sur ses normes et ses règles de tri et de conservation qui sont édictées au niveau national. Donc, après tout, on pourrait très bien dire, on s'en tient à ce qui est proposé, ce qui nous est proposé. Et puis, ben, nos factures, au bout de 10 ans, on les élimine en masse. Et puis, voilà. Parce qu'on considère qu'une facture, de savoir qu'on a payé tel jour, tel fournisseur, ça n'a pas un intérêt historique. Bon, mais par exemple, à Cannes, sur ces questions des factures, et c'est là où du coup l'archiviste lui aussi il s'adapte, hein, et il a un peu la main sur ça, c'est-à-dire qu'il peut très bien dire, bon, ben, moi, j'ai la règle qui m'impose ça, mais c'est une recommandation, il ne faut pas oublier ça non plus, ce n'est pas imposé, ce sont des recommandations, bon, que je ne vous cache pas qu'on est quand même très encouragé à suivre, mais on a quand même la possibilité, entre guillemets, de négocier, mais avec soi, hein, voilà. Et puis, par exemple, pour les factures, ici à Cannes, on a fait le choix de conserver les factures qui présentent des papiers en tête intéressants. Donc, intéressant, c'est quoi ? Où il y a une typographie, où il y a une image, où il y a quelque chose qui témoigne dans la manière dont l'entreprise se représente, tout simplement. Et on considère que ça peut avoir un intérêt historique. Donc, vous voyez, on peut un peu déroger en quelque sorte à la règle. Si on ne peut pas détruire le document avant, ça par contre c'est impossible, mais on peut considérer qu'on le conserve par échantillonnage. On conserve quand même quelques pièces de ces factures. Voilà. Et on a fait le choix aussi à Cannes, par exemple, de conserver tout ce qui concerne, par exemple, le palais des festivals, parce que tous les ans, le festival de Cannes voilà, est organisé. Tout ce qui va tourner autour du festival, s'il y a de la documentation administrative qui est destinée, en quelque sorte, à être éliminée, ben, on va dire non, on garde parce que voilà, on veut avoir un fonds extrêmement riche et extrêmement varié de ce qui concerne le festival et le palais. L'archiviste aussi, il est gardien donc d'un matériau vivant, d'accord, à communiquer et à diffuser. Il le conserve pas parce qu'il a juste une valeur historique et on va dire qu'on le garde. Il le conserve pour le rendre accessible. Et c'est là où vous, évidemment, vous allez intervenir en tant que chercheur. Il le conserve, il le rend accessible comment ? Donc, pour la recherche, via des inventaires. Vous avez tous manipulé des inventaires dans les salles de lecture, j'imagine. Et surtout, ce qu'on attend de lui, c'est une espèce d'action de médiation où il va rendre accessible cette archive. On va lui demander, pour pas présenter un document comme ça brut de décoffrage, mais au contraire, de décrire précisément son contexte de production, parce que ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Ce n'est pas simplement l'archive brute, le matériau brut, mais c'est aussi tous les éléments contextuels qui font que ben, dans quel contexte il a été produit, par qui, comment il est arrivé aux archives, donc, qui sont des données complémentaires qui sont aussi extrêmement intéressantes à prendre en compte. Voilà. Ensuite, dans sa relation à l'archive, il est vrai qu'on peut quand même dire que l'archiviste a une relation aussi privilégiée. Si, en matière, pour revenir sur ces affaires de destruction, la destruction aussi de l'archive, hein, qu'on considère comme n'ayant plus de valeur historique, elle est extrêmement encadrée et réglementée, et elle est aussi tracée, c'est-à-dire qu'on va conserver le board, ce qu'on appelle un bordereau d'élimination, donc qui est la pièce administrative, qui est la preuve que le document a été détruit. Et même si, évidemment, on a perdu l'originalité du document, son contenu informatif, on est en capacité de dire assez précisément ce que l'on a détruit. En matière de destruction aussi, s'il y a l'action quand même de l'archiviste qui intervient, il ne faut pas non plus minimiser les risques externes que subit l'archive de négligence, tout simplement par le producteur. Alors là, ça peut être, c'est des administrations à une époque aussi un peu plus ancienne, hein, parce que maintenant, c'est quand même beaucoup plus suivi. Mais on sait très bien qu'on a perdu énormément de choses, et notamment en milieu tropical, que la perte de l'archive, elle est due aussi à des problèmes climatiques et aussi de négligence, parce qu'on n'avait pas toujours non plus conscience de l'intérêt de la conservation. Voilà. Donc aujourd'hui, l'expérience du sensible, elle est aussi expérimentée par l'archiviste à des moments clés qui sont ceux de la collecte et du classement, qui sont là aussi des moments extrêmement privilégiés. Parce que, et notamment là aussi pour les archives privées, où là, on attend de l'archiviste une action un petit peu prospective auprès des potentiels détenteurs d'archives et de documentation historique, où on a pu faire entrer dans les dépôts d'archives départementales ou municipales des archives souvent inédites qui viennent éclairer l'histoire de manière originale et en complément des archives administratives, des archives publiques. Donc, dans le cadre de ces campagnes de collecte, on va avoir aussi un peu l'expérience que vous avez en anthropologie et en histoire, d'être au contact des détenteurs d'archives, quelles qu'elles soient, que ce soit un témoignage, mais aussi du papier, hein. Et on va aussi à la rencontre de familles, de particuliers qui nous invitent aussi chez eux, parfois, dans un contexte. Donc moi, j'ai de très beaux souvenirs de collègues, notamment des archives de la famille Nardal, donc Paulette Nardal, dont vous avez peut-être entendu parler, donc il y a une grande figure aussi martiniquaise qui a participé dans les années 30 au mouvement, enfin voilà, à la revue, qui a fondé la revue du Monde Noir avec Aimé Césaire, avec Aliker, etc. Et on part à la rencontre, hein, donc l'idée c'est bien d'obtenir ce qu'on nous confie, d'obtenir la garde de ces archives pour qu'elles soient mises à disposition de la recherche. Donc moi, j'ai des très très beaux souvenirs d'être allée chez Paulette Nardal, parce qu'elle n'était plus évidemment vivante, c'était il y a quelques années, mais au moins avec sa petite nièce, d'avoir un peu parcouru les souvenirs de cette personnalité. J'ai ces souvenirs aussi pour un autre fonds privé extrêmement intéressant qui était les papiers, enfin constituait un petit peu un guide des sourds de l'affaire André Aliker, qui est une affaire qui a marqué aussi très fortement la Martinique en 1934. Donc c'est un journaliste communiste, rédacteur en chef d'un journal Justice, dans lequel il a dénoncé une affaire de fraude fiscale qui impliquait un grand propriétaire terrien, un grand béquet martiniquais, qui lui a valu d'être assassiné. Et la mémoire d'André Aliker est réactivée tous les ans par les militants communistes et puis aussi par les militants anticolonialistes. Donc tous les ans, le 6 janvier 1934, il y a un petit cérémonial qui s'organise au cimetière où enterré André Aliker. Donc cette mémoire, elle est extrêmement encore vivante. Donc là aussi, la démarche prospective de l'archiviste, c'est de réunir les sources sur, bon là en particulier sur cette affaire, mais d'enrichir l'apport des archives publiques par ces apports d'archives privées. Donc là, ça nouait beaucoup de souvenirs, jusque même là dans les salles de lecture, où les mémoires sont souvent réactivées, et j'ai eu à entendre, mais alors peut-être, je ne sais pas, Céline, l'expérience que tu en as aussi de ces salles de lecture, mais c'est souvent là où les mémoires sont réactivées, parce qu'évidemment, moi, j'étais dans mon cadre professionnel, donc j'avais invité un détenteur de cette affaire, de la mémoire de cette affaire, donc qui était le petit-neveu de Aliker. Et il m'a raconté l'histoire, voilà, l'histoire de son grand-oncle et aussi celle de son père, parce qu'il avait voulu venger son frère assassiné. Et il m'a raconté voilà, l'événement, comment ça s'était passé. Son père s'était présenté à la sortie d'une messe, je ne sais plus, au Lamentin, je crois. Et il avait essayé de tuer ce fameux Becquet. Hein. Donc, il avait sorti une arme et malheureusement, l'arme s'était enrayée. Et finalement, la balle était atterrie dans son genou, dans son pied, je ne sais plus quoi. Mais voilà. Donc, tout ça, ça nourrit. Évidemment, ce ne sont pas des choses qu'on va retrouver forcément dans les archives écrites, hein, mais qui ressurgissent, voilà, et qui arrivent à l'archiviste. Parce que justement, il conduit ce travail de recension des sources sur un sujet, sur une affaire. Je relis mes notes, je voudrais pas trop. Je suis comment dans le timing?
Tu arrives à la fin.
Ah, bah, j'arrive à la fin. Dernière chose, une expérience aussi. Qui peut rejoindre un peu aussi ce que disait tout à l'heure Céline. Donc, on a expérimenté en Martinique un travail d'indexation collaborative où on a demandé à des bénévoles, souvent amateurs d'histoire familiale ou qui ont entrepris ou à qui ça a donné envie d'entreprendre leur généalogie, de contribuer à l'enrichissement des collections, notamment en constituant une base nominative des patronymes qui étaient attribués à la veille de l'abolition de l'esclavage, donc la période là où il y a eu tous les affranchissements massifs, donc 1833 de mémoire, 32 jusqu'en 1848. Donc, à faire un travail de recensement à travers les registres d'état civil de cette population qui accédait à la liberté. Et là, ça a donné lieu aussi à des récits et à un ressenti extrêmement fort de ces personnes qui découvraient finalement que leur ancêtre, pas forcément hein, d'ailleurs, mais finalement à cette période-là, l'esclave, on était quand même encore en période esclavagiste, hein, mais il y avait des affranchissements assez importants, que finalement la figure de l'affranchi, enfin, au moment de son affranchissement, ce n'était pas simplement l'esclave enchaîné au fin fond d'une habitation, réduit au silence, mais qu'ils avaient un métier, qu'ils avaient qui pouvaient agir, comme on dirait, hein, la fameuse agency. On les voyait effectivement apparaître. Et c'était très, très curieux et très intéressant de voir combien ils étaient assez finalement heureux de cela. Il y en a même une qui m'a dit « j'ai l'impression de me redresser », vous voyez, comme si elle avait été plaquée au sol et à subir une histoire douloureuse, et combien ça lui avait permis de se redresser, donc sans doute dans sa dignité, etc. Et ça avait extrêmement bien fonctionné, le groupe était très actif. Et on a pu fournir un sacré beau travail, d'ailleurs qui continue encore aujourd'hui. Depuis, ça devait faire à peu près 4-5 ans que ce travail a déjà été mis en place. On avait organisé une cérémonie pour les remercier, ils avaient reçu un diplôme, enfin voilà, il y avait un échange, une vraie reconnaissance de ce travail fourni qui était extrêmement important pour eux, non seulement, pour eux personnellement, et puis d'offrir au collectif des matériaux complémentaires pour la recherche. Voilà, je pense que il y avait peut-être autre chose aussi, Céline. Je pensais que tu allais, enfin, évidemment, tu n'as pas pu en parler non plus, mais il y avait aussi sur ces voix aussi qu'on n'entend pas. Je voulais peut-être vous dire deux, trois petits mots, mais ça, vous êtes sans doute au courant, Christine, ça, tu le sais. Il y avait la publication qui s'appelait Voix d'esclaves, qui avait été coordonnée par Dominique Rogers, qui avait été édité chez Cartala, c'était en partenariat avec le CIRES, que là, moi, j'étais aussi un peu intervenue sur ça, puisque au sein de l'association, la Société des Amis des Archives, là, dont j'étais secrétaire aussi, on avait largement contribué au financement, puis aussi à la sélection de cette documentation. Donc, tout ça pour vous dire quoi, pour finir, pour vous dire que parfois aussi, les sources, et ça rejoint aussi ce que disait Philippe Artière, donc on y arrive avec une intention, c'est-à-dire qu'on se présente à l'archive avec une intention d'y trouver quelque chose et finalement on y trouve autre chose parfois de manière involontaire et ces voix d'esclaves donc c'était des jugements d'esclaves qui étaient présentés donc soit comme victimes soit comme accusateurs et ça aussi c'est extrêmement bien de le montrer qu'ils pouvaient se présenter aussi en justice hein, comme on disait pour se défendre et pour aussi accuser des maîtres de mauvais traitements ou de tout un tas de choses. Et à travers donc la finalité de l'archive, là, on voyait bien que c'était purement judiciaire, hein, c'était des actes, c'était des jugements, que derrière ça, on pouvait entendre ces voix d'esclaves qu'on n'entendait pas ailleurs, autrement. Tout ça pour dire que il y a effectivement l'intention de l'archive, elle est produite dans un contexte pour une finalité, mais que aussi on attend peut-être aussi de l'historien de la regarder autrement, au-delà de ce pourquoi elle est produite, et peut-être de réussir par ces chemins un peu de traverse, d'y lire autre chose et de l'utiliser autrement que ce pourquoi elle a été produite. Ça sera le mot de la fin.
Merci Magali, merci. Ouais. Le timing est respecté. Enfin, je vais avoir. Est-ce qu'on m'entend là? Est-ce qu'il y a le micro est bien branché?
Oui. Oui, on t'entend. Oui.
D'accord. On t'entend.
Donc, on va maintenant accueillir Didier. Didier Nativelle, donc qui est. Et juste une précision, on discutera comme ce matin de ce que tu nous as dit, Magali, au moment de notre discussion générale où on discutera les intervenants de l'après-midi. Donc, Didier, qui est membre historique hein, de notre groupe, Monde Caraïbes et Transatlantique en Mouvement. Donc, Didier, je n'ai pas trouvé de biographie de toi sur Internet, si ce n'est. Des choses très brèves, et je t'ai bien reconnu, juste que tu es historien, que tu as publié ça, ça et ça. Donc, j'ai fait ta propre bio et tu me reprendras si tu me corrigeras ce que j'ai fait avec les éléments que je connais de toi. Donc, tu es historien, tu es professeur à l'Université de Paris, qui était anciennement Paris Diderot, si j'ai bien compris, hein, qui a été rebaptisé. Tu es directeur du CESMA, ce qui fait qu'on te voit moins souvent dans notre groupe, et on le regrette bien, qui est le centre, le CESMA, le Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Tu es également, je le disais, membre historique de notre groupe, et tu as consacré la plupart de tes recherches au monde malgache, mais aussi mozambicain, selon une approche qui me semble être généralement phénoménologique, où tu as vraiment accordé de l'attention, une attention, un intérêt quasi central aux pratiques sensorielles au sein de la ville coloniale. Et ça a été, je pense, ton objet d'étude majeure, recherche que je dis, bon, même si on touche un peu au domaine privé, que tu as eu vraiment le très grand mérite et tu dois être un des rares. Tu as conduit tes recherches de thèse et d'HDR, donc l'habilitation à diriger des recherches, alors que tu étais enseignant dans le secondaire. Alors, tes sources sont diverses, et s'appuie autant sur ces fameuses archives coloniales que sur des traces laissées par des artistes, des écrivains. Et au travers de cette sensorialité, tu restes très vigilant par rapport à l'expérience du tragique de la colonisation, que tu retraces avec un regard qui n'est jamais, donc cette expérience de la sensorialité, jamais éloignée des processus de domination et de ségrégation urbaine dans la vie coloniale. Tu es un grand lecteur et fidèle, je pourrais dire, à Merleau-Ponty, et c'est une de tes sources d'inspiration majeures. Et tu vas nous parler aujourd'hui de l'archive en tant que lieu d'une matérialité affective à partir de la notion de réversibilité documentaire que tu as forgée en t'appuyant sur les écrits de Merleau-Ponty. Si tu as le droit de me corriger.
Alors, merci Christine, c'est toujours un plaisir de participer aux journées d'études de MCTM. Ça m'oblige effectivement à regarder peut-être un petit peu autrement mes domaines de recherche, hein, puisque moi je travaille surtout sur l'océan Indien et le Mozambique, l'Afrique de l'Est. Donc c'est toujours intéressant en fait de comparer, hein, et aussi de me confronter à des sociétés de plantation qu'à effectiviste et post-colonial qui t'intéresse beaucoup. Donc, de faire cet aller-retour entre passé et présent, ça me paraît fondamental. Alors, aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler des archives, peut-être d'autres sources également.
Didier, je te signale juste par rapport à ce matin, ton micro semble moins bien marcher.
Ah, d'accord, je ne sais pas quoi faire parce que je ne sais pas si c'est la... Bon. Alors, effectivement, je suis historien du sensoriel urbain, de ville coloniale en Indien, et je me suis aperçu, en fait, alors que je préparais une HDR, que les archives, les imprimés, des photographies ne m'informaient pas uniquement directement sur ces sensorialités anciennes qui m'intéressaient beaucoup, hein, dans la construction de subjectivité politique urbaine dans les années 40-60. Elle m'informait directement parce que je peux déduire des paysages sonores, des spécificités visuelles, olfactives, haptiques de la vie citadine à Madagascar et au Mozambique. Mais en fait, ces sources, dont le matériau principal est le papier, hein, et j'ai conduit une enquête sur le papier, vous le verrez, le font aussi indirectement à deux titres. Et c'est cet aspect indirect, hein, qui renvoie à ce que j'appelle la réversibilité, donc l'autre face des documents. Alors tout d'abord, ces documents qui ont comme des supports papier, hein, donc qui utilisent ce matériau, ont une nature fragile. Ils sont également le fruit de techniques et d'usages qui nous livrent souvent subtilement des données diverses sur les environnements dont ils sont issus, en fait. Alors, d'autre part, la constitution de ces documents, je reviendrai sur le terme de document qu'on a employé depuis ce matin, non pas seulement pour l'historien, hein, donc a posteriori, mais également pour les contemporains, recèle les indices de procédures qui entrecroisent normes, relations de pouvoir, logique corporelle et donc sens en action. Il faut néanmoins reconnaître que la plupart des historiens, ça a été mon cas pendant très longtemps avant de m'intéresser au sensoriel, la question de la matérialité des supports documentaires n'est pas très intéressante, hein, en dehors peut-être d'historiens des périodes anciennes, ou d'histoire de l'art ou de certains autres domaines. Alors, en effet, ce qui intéresse d'abord l'historien, c'est évidemment le contenu, c'est les caractéristiques rhétoriques du document, tout ce qui peut éclairer un contexte, une question qu'il se pose. Donc, l'identité physique de la source elle-même n'apparaît pas vraiment, hein, dans les préoccupations de la plupart des historiens, en fait, hein. Le document est un petit peu transparent. En ce sens que son identité physique est un peu escamotée, et c'est seulement quand, je ne sais pas, l'archive officielle, l'archive privée, le manuscrit, le périodique sont peu lisibles, sont en mauvais état, qu'on s'y intéresse. Mais bien souvent, en fait, c'est la capacité de l'enquêteur à surmonter des obstacles, des problèmes de lisibilité qui est mise en avant, et plutôt que ce qu'on pourrait appeler l'incident documentaire, donc ce qui entrave une lecture facile. Et c'est contre cette passivité du matériau, je reprends une expression de Daniel Milhaud, hein, que j'ai voulu m'ériger, à savoir que la source n'est pas seulement un relais linéaire, en quelque sorte, de la transmission, d'une transmission discursive, il est bien plus que cela. Alors, de ce point de vue, en fait, la médiologie est tout à fait intéressante, hein, pour dépasser cet écueil, à interroger de manière beaucoup plus riche la physicalité du document et eh bien, tout ce qui permet d'ouvrir sur un contexte plus large, le document comme prisme, hein, pour comprendre parfois de manière intime une société. Et donc, en suivant la médiologie, il y a par exemple une enquête qui a été menée par un certain nombre de chercheurs, hein, sur les pouvoirs du papier. Alors, les cahiers de médiologie qui avaient consacré donc un numéro spécial au pouvoir du papier avaient été coordonnés par Marc de Biasi, qui est spécialiste en littérature et qui a proposé en fait une démarche, celle de la génétique des textes. Je vais en reparler un petit peu tout à l'heure. Alors, les pouvoirs du papier sont en effet paradoxaux. C'est ce que nous dit ce numéro tout à fait intéressant. Le papier s'est certes imposé dans le monde et dans une histoire longue, mais surtout à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, il y a un tournant industriel dans sa production. On passe de la fabrication d'un papier à partir du chiffon à du papier à partir de bois. Donc on produit beaucoup plus de papier, et cette production qui s'accroît dans la deuxième moitié du 19e siècle, elle accompagne, ce qui m'intéresse beaucoup, le deuxième âge impérial occidental, mais également une révolution des transports et des communications, ainsi que l'amorce d'une bureaucratisation du monde. Néanmoins, le papier s'efface le plus souvent derrière des textes, des images, des cultures de l'écrit qu'il soutient, ou encore des actes qu'il rend possible. Il épouse d'une certaine manière, avec beaucoup de discrétion, le visible. Il se donne généralement pour être oublié, et donc c'est peut-être à l'historien de le sortir de cet oubli. Alors, le papier est fragile, et pourtant les messages qu'il aide à exprimer dans différents contextes ont parfois une importance capitale. Alors, sans négliger cette focale médiologique, qui conduit donc à enquêter dans le sens d'une génétique des textes dont parlait, que propose Marc de Biasi, j'entends, moi, ne pas m'en tenir seulement à une enquête sur le seul médium, donc le papier en particulier, mais essayer de voir comment, à travers ce médium, le rapport sensible que des sociétés africaines ont entretenu, entretiennent encore avec le monde, s'est construit à l'époque coloniale principalement, mais vous le verrez tout à l'heure, souvent avant aussi. Alors, un document est en effet en soi une production sensible comme matériau, qualité et fonction spécifique dont on peut faire l'histoire. J'essaierai de le faire pour Madagascar rapidement. C'est aussi en fait le fruit d'une élaboration plus ou moins longue qui suppose l'action située et conjuguée d'acteurs pluriels, d'acteurs et d'institutions d'ailleurs. Tout document a des effets multiples qui se prolongent parfois dans le temps et dont est témoin dans sa sensibilité quelquefois l'historien. Donc travailler la réversibilité documentaire, c'est prendre en charge tous ces paramètres. Donc, j'insisterai beaucoup sur des sources archivistiques et des imprimés. Il y aura effectivement quelques petites mises au point théoriques, Christine a un petit peu anticipé. Et puis je m'attellerai en fait à cette question de la réversibilité documentaire au-delà même de mon champ d'étude, donc le sensoriel, pour voir comment le papier aide à comprendre les modes de construction sociaux et politiques en Afrique et dans l'océan Indien depuis le 19e siècle. Alors, ce que Maurice Merleau-Ponty, dans la phénoménologie de la perception, appelle réversibilité, il le doit à Husserl, donc il ne l'a pas inventé, hein. Donc c'est quelque chose d'assez classique en phénoménologie, l'être qui sent est aussi senti par lui et par autrui. Il est donc pleinement engagé dans le monde sensible, on pourrait dire, même quand il se croit en retrait, en fait, hein, il ne fait que l'observer. Donc la perception n'est pas un dédoublement de cet engagement, mais bien une de ses modalités. Alors on pourrait appliquer cette idée au document. Donc le document, ce n'est pas un être qui sent, mais c'est un être effectivement qui est lui-même en prison, en quelque sorte, ou a capté un sensible à un certain moment. Mais j'applique aussi cette notion-là à l'historien. car l'historien croit souvent s'effacer derrière les cartons et les dossiers qu'il a commentés dans un dépôt, qu'il a commandé dans un dépôt d'archives. Il est complètement absorbé par son enquête. Donc, il pense qu'il est totalement observateur et analyste de ce qu'on lui a donné. En réalité, comme l'a montré Dourba Ghosh, en parlant de son expérience d'historienne de l'Inde coloniale, et un petit peu comme Farge, elle a produit un texte en fait, où elle réfléchit donc à son expérience. Dourba Ghosh nous dit en fait que si l'historien lit l'archive, l'archive la lit, hein, ou lit l'historienne qu'elle est. Car bien souvent, l'institution et ses représentants questionnent, directement ou indirectement, le sens même de la présence de ce lecteur ou de cette lectrice, son statut, son genre, sa nationalité, ne serait-ce qu'en remplissant des formulaires. Sur un autre plan, la sensibilité de l'historienne, de l'historien, est souvent mise à l'épreuve par la consultation de l'archive. On en a parlé ce matin, donc on a évoqué Farge, on peut parler également de Stoller, dont il a aussi été question. Alors, la source elle-même, dans l'ambiance particulière, dépôt d'archives, on en a parlé tout à l'heure, mais pas uniquement, ne produit pas seulement un effet au présent. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la sensorialité antérieure à l'archivage et au classement du document lui-même et qu'en tant qu'historien, j'essaye d'interroger. Alors, pour être un petit peu plus précis, pour Merleau-Ponty, la sensorialité, c'est cet entre-deux entre perception, donc des sujets qui sont engagés dans le sensible, et matérialité, les modalités expressives de ce sensible. Et c'est ce que Merleau-Ponty, à la suite d'Husserl, là encore, appelle « chair » ou « entre-là ». Alors, de fait, de nombreuses études qui s'inscrivent dans le champ sensoriel portent sur les villes. C'est une source d'inspiration pour moi. Elles ont besoin de concevoir en fait, les modalités très précises hein, où des interactions subtiles jouent entre acteurs sociaux et environnement. Ça débouche en fait, sur une perspective d'écologie sensorielle du social. Mais le monde ou les mondes coloniaux sont généralement négligés, ignorés par ces spécialistes du champ sensoriel, donc il y a beaucoup à faire, c'est ce que j'essaye de faire justement. Et dans ces mondes, en particulier dans les parties urbaines de ces mondes, la ville est d'abord au service d'un ordre racialisé, générateur d'inégalités inscrites dans l'espace, les corps et les objets. De fait, l'engagement sensible des habitants des villes coloniales, également les objets et les dispositifs qui permettent à ces villes de fonctionner, sont profondément déterminés par des asymétries juridiques et sociales ancrées. Alors, observateur souvent très fin de la vie politique française, européenne ou plus globale, Merleau-Ponty ne pose néanmoins pas directement la question des constituants et des effets perceptifs du politique en contexte colonial. C'est en dehors, en fait, hein, de son enquête. Alors, il a une connaissance, mais souvent brève et superficielle, de territoires en Afrique et dans l'océan Indien, et il n'intègre pas la question du racisme dans son interprétation de la perception, à l'inverse de l'un de ses anciens élèves à Lyon, hein, Frantz Fanon, qui la vit dans son être. Hein, je renvoie à l'expérience vécue du noir dans Peau noire et masque blanc, et également qui l'observe alors qu'il est interne, puis ensuite chef de clinique en France et en Algérie. Alors parallèlement à Fanon, c'est du côté de Jacques Rancière que l'on peut tirer la perception et la réversibilité vers une politique des sens. Pour Rancière, le visible est le fruit d'une hégémonie, donc le résultat d'un travail d'occultation d'une partie des sujets politiques. Toute tentative de questionnement des fondements institutionnels ou quotidiens du visible est en cela subversive. Cependant, à aucun moment, Rancière insiste vraiment sur des procédures, des modalités concrètes de production de ce sensible. Alors, c'est ma dernière référence. Hein. Donc, Mauricio Ferrari, c'est tout à fait utile pour justement travailler concrètement hein, sur ces modalités. Donc, c'est là que l'historien que je suis peut s'emparer d'outils en fait, hein, vraiment pratiques. Alors, Mauricio Ferrari, c'est un philosophe qui nous permet en fait, de penser les pouvoirs du papier dans différents contextes. Il a forgé une notion qui est celle de documentalité et qui a distingué de ce que les historiens appellent, après l'examen d'une source, document. La documentalité pour Ferrari, c'est la force agissante sur le monde social d'un matériau qui est mis en forme et doté d'une portée officielle. Pensez à la carte d'identité. Ferrari nous invite à explorer la manière dont les sociétés et les pouvoirs utilisent ces supports chargés d'autorité, à certains moments, pour se constituer et perdurer. Ces documents, notamment de papier, ont une capacité d'enregistrement des coordonnées sociales des acteurs, dont la mobilisation active à tout moment des relations de pouvoir. Alors, sans mauvais jeu de mots, ces supports sont des suppôts, littéralement des agents prêts à usage au service de dispositifs de surveillance, notamment, dotés par ce biais de capacités mnésiques ou d'archivage. Des données sont mémorisées par l'alliance des fibres du papier et des pigments de l'encre, d'autres sont refoulées. Cependant, dans les mondes coloniaux, la violence systémique dont témoigne par son existence même le document officiel est comme absorbée par la banalisation progressive de l'usage qui en est fait. Faire retour sur cette opération de refoulement constitue bien l'un des objectifs que je m'assigne en tant qu'historien. Il faut noter en fait que les effets de la documentalité commencent depuis quelques années à être étudiés par des historiens, notamment en histoire de l'Afrique. Alors, papiers d'identification, actes d'état civil, registres fiscaux et fonciers ont été le plus souvent introduits en Afrique à l'époque coloniale. Donc, j'ai deux collègues qui ont dirigé une ANR qui portait justement sur cette question des documents d'identification. Séverine Avenant et Richard Banegas qui ont dirigé un numéro de Genèse en 2018 sur ces questions-là. Donc, je vous encourage à lire ces recherches. Alors, cette documentalité doit être appréhendée comme l'invention d'une forme politique dont l'expression, les documents, porteraient l'empreinte et susciteraient des effets et donc des affects. Donc ces matérialités affectantes ou affectives du papier, mis en forme par des bureaucraties, on peut les retrouver dans différentes sources, des entretiens et parfois par des photographies et souvent également par des œuvres littéraires. Je pense en particulier à des poèmes, des formes brèves, écrits par des Sud-Africains noirs avant l'époque de l'apartheid ou après l'époque de l'apartheid, ou pendant l'époque de l'apartheid, pardon. Donc, par exemple, je pense à un texte de Solomon Linda, qui était également un musicien, un chanteur, et un poème qui s'appelle « The Pass Office », donc le pass, c'est le passeport intérieur, obligatoire avant l'apartheid, et il raconte donc dans ce texte très très court, ou plutôt il met en scène les relations de domination qui se jouent au moment en fait de l'enregistrement du pass, qui est extrêmement violent en fait. Hein. Et d'autres textes vont un petit peu dans ce sens-là après l'époque, la mise en place de l'apartheid après 1949. Je pense en particulier à un poème de Stanley Mutuwadi, qui était rédacteur en chef du magazine Drum, c'est un magazine assez mythique de la région de Johannesburg, et qui est né dans les années 50. Donc Mutuwadi, je vais le citer, hein, dit dans ce texte sur le pass, le rapport intime assez insupportable de tout Africain à ce pass, « Without it, I'm lost. With it, I'm lost. I hate it, I nurse it. My pass, my everything. » On retrouve cette même place centrale et obsessionnelle du pass dans un autre texte appelé tout simplement Johannesburg, d'une des figures du mouvement de la Black Consciousness, donc la conscience noire, Mongano Alicerot, où il dit, je cite quelques passages, « Ma main fébrile saute à la poche arrière de mon pantalon ou à la poche arrière de ma veste pour m'en laisser passer ma vie. » Donc à travers ces différents textes imprégnés par l'impossible routine de l'oppression, on pourrait dire que les papiers documentalisés dans le sens de Ferrari sont une capacité affectante, immédiate, et plus durable. Ils modifient radicalement ce qu'à la suite de Spinoza, on pourrait appeler une puissance d'agir. Ils réduisent le champ des possibles et modèlent de manière extrêmement négative des manières d'être, des imaginaires qui le conditionnent souvent de façon automatique. Alors, ces papiers d'identification de l'époque coloniale renvoient en fait à une incorporation violente de la documentalité. Ce papier ou ces papiers officiels en contact avec le corps rayonnent d'une aura négative. Ce matin, on avait fait référence à Benjamin. Alors, de leur côté, d'autres groupes sociaux, les assimilés, assimilados du Mozambique voisin, disposaient d'un statut privilégié proche de celui des Européens. En fait, ils sortaient du cadre des indigènes dans les années 40-50. Ils avaient donc théoriquement le droit de se déplacer où ils voulaient et d'accéder. En réalité, présenter un document prouvant son statut d'assimilé à l'entrée de cinéma ou de café de la ville européenne, de Lourenço Marques, l'actuel Maputo, n'ouvrait cependant que rarement les portes d'établissements régis par les lois d'un racisme assez implacable. À l'inverse, la ville d'usage des privilégiés de la race, les Blancs, se passe généralement de documentation ou de documents officiels. On le voit très bien dans les mémoires d'Eugenio Lisboa, qui était à l'époque ingénieur et critique littéraire. Il est très célèbre dans l'ensemble du monde lusophone, encore aujourd'hui. Alors, à l'époque, dans les années 40-50, il pouvait, lui, en tant que blanc, circuler à toute heure du jour et de la nuit dans cette ville de Lourenço Marques ou dans d'autres. Et il pouvait se permettre d'oublier ses papiers d'identité, il n'avait aucun souci. Au fond, l'attestation somatique, plus précisément phénotypique dans son cas, se suffisait en quelque sorte à elle-même. Alors que cette documentalité coloniale, chez les non-blancs, produisait une sorte de dédoublement des sujets dont la corporalité était clivée, car toujours reliée explicitement à un statut matérialisé par ces documents d'identification. Alors, pour la majorité des habitants des anciennes villes coloniales d'Afrique, ces documents qui ont affecté tant de vies sont aujourd'hui disséminés entre des archives d'État et des archives privées. Mais le plus souvent, ils ont disparu et sont assez peu l'objet d'enquêtes, même si, je vous l'ai dit tout à l'heure, un nouveau champ d'études semble émerger. Mais quand on connaît en fait les contextes au-delà des documents eux-mêmes dans lesquels ont été produits ces documents, on sait en fait, hein, bien sûr, que les colonisés eux-mêmes étaient insérés dans ces rouages oppressifs. Je prends un exemple à Madagascar, à Tananarive, donc la capitale de Madagascar, où des policiers malgaches surveillaient la capitale de jour comme de nuit. Alors, dans une série des ANOM, les Archives nationales d'outre-mer d'Aix-en-Provence, la série PT, province de Tananarive, on trouve des exemples de rapports rédigés, pas uniquement par des inspecteurs français, mais également par des inspecteurs malgaches. L'un d'entre eux, l'inspecteur Radzonarivel, fait une patrouille avec deux agents le 22 novembre 1938, de nuit. Et il est à l'affût en fait, de délinquants, de prostituées et également de nationalistes du Parti communiste de la région de Madagascar. Il va rendre ce rapport qui a survécu, qui nous est parvenu et que j'ai consulté à Aix. Alors, acteur de ce sensible sous contrôle, Radzonarivel est aussi en fait, le fruit d'une production normative et sensorielle de la surveillance que d'un monde social tananarivien, donc malgache, bâti sur la maîtrise de l'écrit, un certain rapport de familiarité avec le papier et avec l'autorité. On le verra un petit peu après. Alors, d'autre part, ce document même a été tapé à la machine sur un papier très très fin. Et donc, on est en 38. Quand on observe le même type de rapport 5, 10 ou 20 ans plus tôt, ce n'est pas le même papier. Il y a eu des changements. Alors vous me direz, c'est peut-être anecdotique. Oui et non, en fait, ça nous oblige un petit peu à ethnographier hein, l'État qui construit en fait, le monde social. Donc, regardez la réversibilité en fait, hein, de cette la surveillance. Alors, ce rapport que j'ai pu consulter, en fait, lui, a manifestement survécu au mauvais traitement qui était très souvent infligé aux archives de l'époque coloniale à Madagascar. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Hein. C'est quoi les archives, effectivement, qui sont versées dans divers dépôts hein. C'est d'abord, en fait, des productions administratives. Comme l'a très bien montré dans sa thèse d'histoire et d'archivistique Charlie Jolivet, hein, qui a fait un magnifique travail sur les archives de l'océan Indien en 2016, en fait, beaucoup de ce qui provenait des services administratifs coloniaux à Madagascar ou ailleurs échouait en fait dans des dépôts, on ne savait pas quoi en faire, il n'y avait pas toujours des doubles qui étaient envoyés à Paris d'ailleurs, et souvent ils ont pourri sur place. Alors, La bureaucratie française qui était installée depuis 40 ans à Tananarive et dans les principaux centres urbains de ce territoire est dévoreuse de papier. Elle ne sait effectivement pas toujours quoi en faire et comment les conserver. Mais il serait en fait tout à fait erroné de croire que le tournant politique du papier à Madagascar n'a lieu qu'avec la colonisation. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga dans ce domaine-là et dans d'autres. Il y a une historicité beaucoup plus profonde de cette société et d'autres en Afrique. Alors, c'est ce que je vais vous montrer dans un deuxième temps. En effet, depuis le roi Radam Ier, qui régnait de 1810 à 1828,
Didier, je te
un
donne
État malgache, celui
Didier,
qui dirige.
Excuse-moi, je te donne juste le timing. On peut dire qu'il te reste environ pas plus de 10 minutes. Hein, d'accord? Il est 38 là.
Entendu.
Donc, on te laisse 5 minutes supplémentaires autant, d'accord?
Ok. Alors, donc, sous Radam Ier, en fait, on utilisait le papier en témour, qui est un papier qui provient de cette société du sud-est de l'île, et on utilisait une écriture qui était l'arabe malgache. Mais ce souverain de l'ethnie merne, de l'Imerne, donc des hautes terres de Madagascar, va signer des traités avec les Britanniques qui sont établis dans la région à l'île Maurice en 1807 et 1820. Et l'objectif des Britanniques et d'un gouverneur de Maurice qui s'appelle Robert Farquhar, c'est que ce royaume cesse de vendre des esclaves. Madagascar a cette particularité en fait, d'importer des esclaves venus du Mozambique, les Makwa ou Makou, et également de vendre des esclaves vers les Mascareignes ou ailleurs. Donc ce souverain accepte, à la suite du traité de 1820, donc, des compensations de la Britannique et bénéficie d'un certain transfert technologique avec l'arrivée d'artisans, également de missionnaires de la London Missionary Society qui ouvrent des écoles. Rapidement, donc, ces écoles donnent naissance à des lettrés qui permettent à une bureaucratie de s'esquisser, et cette bureaucratie centrale, autant que son armée, dans l'émergence de cet État qui s'étend, hein, qui connaît une expansion dans l'île. Le papier est très utile pour les correspondances avec l'étranger, donc, parce que ce roi essaie d'obtenir des alliances, donc se renforcer par rapport à d'autres États malgaches dans l'île. Et surtout, en fait, le papier et cette correspondance est essentielle pour établir des liaisons entre la capitale, Tananarive, et des provinces à la tête desquelles sont placés des gouverneurs. De fait, au cœur du royaume, dans cette ville de Tananarive, que dans des provinces royales, les besoins en papier s'accroissent. Donc, lever les impôts, prélever des taxes sur les douanes, la vente d'esclaves, puisqu'il y a toujours de l'esclavage à Madagascar jusqu'en 1896, ou encore juger suppose la présence de ces supports à la fois fonctionnels et chargés d'un grand prestige auprès de beaucoup de Malgaches, parce qu'en fait, ils portent une certaine autorité. Alors, une décennie, Madagascar est dans une situation où, concrètement, sans papier, les rouages de l'administration se bloquent. Et ce papier vient de Grande-Bretagne. C'est d'abord dans des familles christianisées et urbaines que le papier entre dans le quotidien de Malgache. Beaucoup, pour ceux qui se sont convertis entre les années 1840 et surtout à partir des années 1860, les livres, c'est d'abord la Bible, mais pas uniquement. On trouve également du papier à correspondance, du papier à musique, des photographies. Dans les intérieurs de ces habitations, à Tananarive, on trouve des tapisseries souvent venues d'Europe. Alors, ces lettrés de la capitale écrivent quotidiennement dans le cadre d'occupations publiques, mais aussi parfois pour eux-mêmes. Un exemple célèbre pour les spécialistes de Madagascar, Rakoudvo, qui était un petit officier royal qui a rédigé en fait son journal en malgache à l'abri de sa demeure parce qu'il il s'est converti très jeune, dans les années 1840, où une reine qui s'appelait Ranaval Ier a persécuté en fait les chrétiens. Donc cette écriture, en fait, hein, c'est une écriture de résistance. Il a écrit pendant 60 ans, jusqu'en 1906, date de sa mort, et 10 ans après la mise en place de la colonisation. Alors ce texte, qui est tout à fait passionnant, hein, c'est un miroir souvent inquiet de quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'ego scriptor à la Paul Valéry, hein, donc oui, inquiet, plein d'espoir parfois aussi, Mais ce texte, en fait, c'est aussi une belle fenêtre sur cette réversibilité documentaire qui traverse plusieurs moments politiques et culturels de ce que un historien, Tony Ballantyne, appelait la papérisation des sociétés. Alors, l'un des effets de la conquête coloniale française, c'est de confisquer ces papiers publics, parfois privés aussi, qui émanaient à la fois de la monarchie d'Imerne, abolie en 1896, et également des papiers qui provenaient du monde des dignitaires de ce royaume. Et donc, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui les archives royales, aux archives nationales malgaches, c'était en fait, à l'époque coloniale, un butin de guerre, l'un des nombreux butins de guerre de l'armée française qui abolit donc cette monarchie. Et à l'époque coloniale, il y avait déjà un service d'archives. Il était impossible, en fait, comme le montrait Charlie Jolivet, de consulter ces documents de l'époque royale écrits en malgache, car ils démontraient par le menu l'existence d'un État aux fortes ambitions. Alors, l'installation durable des Français dans l'île modifie, reconfigure le rapport politique et intime des Malgaches avec le papier, mais au fond, il le renforce et le complexifie. Donc, à partir de ce moment-là, donc 1896, chaque feuille, chaque imprimé introduit ou conçu dans la nouvelle colonie est une affirmation de souveraineté pour la France, peu importe la nature et la taille des documents. Des timbres aux billets de banque, en passant par les affiches, les périodiques, le papier est indispensable à l'ancrage de la domination française. On voit très bien avec, j'ai pas le temps d'en parler, mais je pourrais éventuellement reparler, quand on suit de très près en fait, hein, les productions du journal officiel de Madagascar. Alors très vite, le potentiel forestier de l'île est jugé encourageant et apte à fournir une production papetière. Ça ne marchera pas finalement, mais je voulais vous dire une chose très intéressante, je pense, à ce propos, c'est que ce ne sont que des colons qui sont engagés à exploiter la forêt. Les Malgaches sont sciemment écartés de toute possibilité d'exploiter la forêt, par exemple pour produire du papier. La forêt, c'est une expression privilégiée, ça a été dit par d'autres également, d'une écologie politique coloniale. Éventuellement, je pourrais vous parler d'un exemple célèbre, hein, c'est l'un des insurgés de 1947, Victorien Razanfindrabé, qui, dans la région de Mouramang, a tenté justement de se lancer dans la production d'exploitation forestière. Alors, le papier, c'est il me reste pas beaucoup de temps, mais un très bel outil de subjectivation citadine. Et on le voit très bien dans le journal de Jean-Joseph Rabé-Arrivel, donc, qui est un poète célèbre, qui est né en 1903 et mort en 1937. Et au fond, en lisant son journal, qui a été édité par des collègues, en particulier Claire Riffard, spécialiste de son œuvre, et suivant cette méthode de la génétique des textes, ce journal, c'est une source de premier ordre sur le monde sensible du papier d'élite citadine malgache en contexte colonial. Alors, il est, ce poète, hein, Jean-Joseph Rabé-Arrivel, c'est un amoureux du papier, c'est un amoureux des livres, et il repère par exemple qu'un livre de Paul Claudel, alors il aime beaucoup Claudel, mais il repère qu'il est imprimé sur, il le note dans son journal, sur un papier vélin, pur fil, La Fuma. Donc c'est la papeterie en fait la plus renommée de France à ce moment-là, et dont il se trouve qu'un agent est présent à proximité de son domicile rue Amiral Pierre. Alors lui-même, il écrit beaucoup, hein, donc il est entouré de papier, et en particulier de billets qui lui permettent de correspondre avec des Tanaariviens. Il n'a pas le téléphone, il y a très peu de gens qui ont le téléphone. Mais il écrit aussi en dehors de l'île, il peut comme ça sortir de ce cadre asphyxiant de cette ville coloniale qui l'entrave. Et ses interlocuteurs de papier, c'est comme ça qu'il les appelle, sont parfois prestigieux, hein. C'est Valérie Larbeau, Roger Martin Dugard, Julien Green, Nancy Cunard. Alors, passant toute une matinée à répondre à des lettres, il note qu'il n'a pu sortir, je le cite encore, de cette forêt de papier qu'avec difficulté. La reconnaissance de son talent et de cette activité épistolaire qui était vraiment très intense lui valent la publication de ses poèmes bien au-delà de Madagascar, à Paris, Marseille, Saint-Étienne, Tunis, Port-Louis, Vienne, Londres. C'est par exemple Samuel Beckett qui traduit l'un de ses essais, Un coup d'œil sur le passé Madagascar, pour l'anthologie Negro, de Nancy Cunard, et qui paraît en 1934. Alors certes, il ne voyage pas, il ne bouge absolument pas, il ne voyage que par les livres et par les lettres. Et ces moyens-là, donc le papier, au fond, hein, lui permettent, je le cite encore, de voguer par la pensée. Il ajoute également que ce sont ces boutres de papier. Les boutres, ce sont les embarcations qui sillonnaient l'océan Indien dans la longue durée. Alors, en conclusion, j'ai terminé. Donc, le papier, c'est bien une matière apolitique, pour faire un clin d'œil à Bayard et Varnier. Matière apolitique par excellence. C'est en effet un outil sensible du contrôle social, bien sûr, on l'a vu, mais c'est aussi un mode. Il permet en fait de se construire comme sujet. Et dans le cas d'Élie Talanarivienne dont j'ai parlé, cette subjectivation grâce au papier est antérieure parfois à la colonisation. Alors cette ambivalence constitutive peut s'analyser à travers de multiples strates temporelles où s'opèrent les mues successives de sociétés africaines dans leur pluralité. Ici, la réversibilité documentaire, c'est moins un concept, une notion, hein, qu'une invitation à intégrer plus fermement les matérialités affectives des sources dans ce que De Certeau appelait l'opération historique. Entre objet et chose, le papier offre un visage vraiment paradoxal. Il est si présent et indispensable, alors c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais ça l'était en tout cas à l'époque coloniale, qu'on l'oublie. Or, sa légèreté et sa fragilité sont inversement proportionnelles à son pouvoir, parfois très grand. Une fois transformé en document, dans le sens de Maurizio Ferraris, il affecte alors durablement perception et vécu dans des contextes différents, toujours marqués à divers degrés par une bureaucratisation racialisante du monde et qui démarre au XIXe siècle. Par ailleurs, en termes de réflexivité, étudier des réversibilités documentaires et les matérialités affectives qui vont avec conduit à observer peut-être plus activement, on l'a peut-être un peu fait ce matin, les conditions d'immersion des chercheurs sur le terrain. C'est un terme, à mon avis, qui doit absolument inclure, si l'on suit Farge, Stoller, Gauche, les salles de consultation d'archives et même tous les lieux où se constitue le corpus des historiens, en particulier le corpus archivistique. Donc, je fais référence aux archives privées hein, qu'on peut consulter ailleurs que dans les dépôts d'archives. Je renvoie également au magnifique texte de Georges Didier Huberman, hein, Éparse voyage dans les papiers du ghetto de Varsovie, où tout cela est très bien montré aussi dans un autre contexte. Enquêter, c'est donc aussi éprouver dans son corps des matérialités affectives, dans des contextes où, pour les cas que je connais mieux, Mozambique et peut-être davantage encore Madagascar, l'ombre de la relation coloniale continue de peser et le sentiment d'un vol de l'histoire subsiste encore. Du fait, en fait, bien sûr, ça a été dit par Christine, d'une asymétrie scientifique, mais aussi d'une géopolitique des archives qui a été fixée au moment des indépendances, imposée en fait aux États africains et qui reste encore aujourd'hui profondément inégalitaire. Alors, ce que j'ai constaté à mon endroit pendant mes enquêtes, il resterait à l'appliquer aux enquêtes de mes collègues. Dernier point, hein. Un de mes collègues, Gabriel Ratouange, qui est un historien du département d'histoire à Madagascar, a mené dans les années 70 une recherche à mi-chemin entre histoire et ethnologie sur le papier en témour, donc un papier malgache ancien. Et il l'a fait à un moment en fait, où Madagascar connaît une pénurie énorme de tout, et en particulier de papier. On est dans un...
Didier, je vais être obligée de te demander de conclure rapidement, s'il te plaît, parce qu'on a largement dépassé le temps. Est-ce que tu m'as entendu, Didier ?
Oui. Je termine.
Oui, voilà, parce qu'on a largement dépassé le temps.
D'accord, je termine juste dernier point. Donc, moi, il me semble qu'effectivement, travailler sur ce médium, qui est un fragment du monde, pour reprendre un terme d'Emmanuel Ecoccia, c'est en faire, donc le papier par exemple, hein, derrière le document, un formidable lieu d'observation de la captation d'un sensible passé, champ de force complexe et de ses échos au présent. Merci et désolé pour avoir dépassé un peu le temps.
Bon, bah, merci à toi Didier. Alors, je voudrais amener deux précisions avant notre pause. Je me suis trouvée très gênée parce que normalement, c'est toi le maître du temps, Didier. Donc, ce que j'ignore, c'est que tu ne peux pas être le maître du temps pour ton propre temps. Donc, je le saurai maintenant et j'appliquerai drastiquement les règles comme tu sais le faire parce qu'on a vraiment pris beaucoup de retard là. La deuxième chose que je voulais vous dire, les petites pastilles que l'on voit apparaître à l'écran avec des noms, nous ne sommes pas que ces personnes-là présentes derrière l'écran, il y a des connexions. On était bien loin des 650 quand même que nous avions eu la dernière fois, ce qui était énorme. Aujourd'hui, nous atteignons la petite centaine entre ceux qui sont derrière l'écran et ceux qui sont connectés sur le live du Facebook. Bon, enfin, c'est pas mal. Et quand on est dans notre salle de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, on est plutôt réduit, on est à une vingtaine. On est très content quand on est une vingtaine. Donc, voilà. Je vous donne rendez-vous, on va prendre une petite pause, on écoutera ensuite Nora qui va nous donner des respirations aussi par des documents filmiques et ensuite on aura notre grande discussion avec Magali, Didier et Nora. Donc il est, disons, 55, on se donne rendez-vous à 16h10, d'accord ? Voilà, à tout de suite.